C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Yannick Bouchard.
Stéphane Wade, qui est notre ailier droit ce soir. Ton ailier droit, mon Jerv. Stéphane, on aime ça quand tu viens ce vendredi.
Je vendrai ta gauche.
On est les deux larrons.
Salut, mon Steph.
Salut, Mario. Comment ça va?
Ça va très, très bien. Content de te revoir en personne après une belle analyse cette semaine qui a suscité une certaine controverse concernant les tirs bloqués.
Les lancers bloqués, oui.
On y reviendra. Et notre invité spécial ce soir, c'est votre joueur de centre, Claude Legault. Salut, Claude.
Salut, tout le monde.
Hey, merci
de te joindre. Je suis défenseur d'habitude.
T'es défenseur,
ouais.
Ouais, ben en tout cas sur une distribution normalement t'es en tout cas il te place sur le premier trio.
Je suis le power play.
T'es le power play. Toujours aussi passionné de hockey, Claude. On a pu jaser un petit peu entre les pauses depuis ton arrivée tout à l'heure. Puis je t'ai déjà vu comme vraiment à bout du Canadien hein les dernières années là.
Ouais, ben ça c'est un rapport amour-haine, tu sais, je suis né avec le Canadien, je veux dire. Moi, j'ai été trop gâté. Moi. J'ai commencé à écouter le hockey à la fin des années 60, début 70. Fait que je n'ai vu des coupes cette année, des équipes absolument hallucinantes. Fait que quand la disette est arrivée à partir de 94-95 en montant, là, j'ai commencé à souffrir un peu.
C'est un méchant creux, ça.
C'est un méchant creux.
C'est quand Patrick est parti, puis tout ça, là, oh my god.
Ben, Sambard aussi, Serge Chabard et compagnie. Ça a commencé à débarquer.
Ouais, c'est dur.
Ouais.
C'est dur pour notre génération parce qu'on a connu ça.
C'est ça.
Et puis, je parle souvent à des jeunes, je fais des écoles de hockey, toutes sortes de choses. Et puis, les jeunes, eux, ils veulent juste voir un show, puis ils sont contents de voir Caulfield, puis ils étaient contents de voir Carey avec quelques années. Puis, eux autres adorent ça, mais ils n'ont pas connu qu'est-ce qu'on a connu. Toi, t'es-tu rendu un petit peu comme. Parce que tu vois, la nouvelle génération de fans sont comme. Pas grave.
À la pièce, comme.
Ah, c'est pas un bon grave, match on soir. A du fun.
Ouais, mais ils ont d'autres préoccupations, tu sais. Il y avait moins d'affaires dans notre temps aussi. Tu sais, il y avait moins d'affaires. Il y avait pas Internet, hein. Déjà, fait qu'on jouait dehors ou on écoutait à TV. Puis il y avait, quand j'étais jeune, il y avait une game par semaine à TV. Tu sais, le reste à la radio.
T'en manquais pas.
Puis après ça, il y a commencé à en avoir le mercredi. Puis tout ça, tu sais, il y avait pas beaucoup de matchs. Puis c'était un événement, une game de hockey. Tu sais, maintenant, il y a tellement de shows, tellement de types de sports que, oui, les kids, ils ont plus de choix que nous autres. Puis c'est normal qu'ils s'excitent. Il y en a, par contre, des kids qui sont vraiment fans du Canadien.
Okay,
mais ils souffrent pas de la même affaire que nous autres.
Non, parce
que nous, on l'a connu, on y a goûté. Fait qu'on en veut d'autres, tu sais. Mais quand ils vont en avoir une, puis ils vont y avoir goûté. Parce que moi, je crois encore qu'on peut en avoir une. Puis de mon vivant, j'espère.
Rien de garanti.
Rien de garanti.
Mais en passant, là, tu parlais des jeunes, là, comme à notre époque dans notre temps. Là. Ouais. Mon Dieu, que j'en vis pas les jeunes aujourd'hui. Honnêtement, là, on était, comme tu disais, toujours dehors, on jouait au hockey.
Tout le temps,
on,
ouais.
Toujours dehors, puis on faisait. C'était sain notre affaire. Aujourd'hui, là, c'est des écrans, puis. Moi, j'ai deux garçons de 13 et 14 ans, puis je vais te dire, c'est une bataille continuelle, là. Je me bats avec mes poules, je me bats avec mes gars,
Tu bats avec tes poules?
J'ai passé la journée à courir après mes poules. On a changé de setup
dans quel bar, ça?
Oui, ça, moi, je dis ça, je travaille plus.
Mais j'en ai quatre poules, sérieusement. On a changé de setup de poules, puis je sais pas si je sauvais par où. À chaque fois que je me virais de bord, il y avait des poules de sortie, puis oh my God.
Tu t'envoies une avec des pinces,
là, c'est
elle qui ouvre la
clôture. Non, mais là, je t'envoie depuis Saint-Hubert, puis c'était pas pour une commande. Je vous ai offert un repas à quatre.
Pierre, qu'est-ce que tu nous fais goûter ce soir?
Ce soir, là,
de vin, c'est Claude, encore... de temps en temps?
J'adore.
Oui, t'adores.
C'est encore... c'est très bon. C'est un Côte-du-Rhône-Village. Ça s'appelle la Montagnette. 2022, c'est 18,20 $. Et honnêtement, le raisin, la compagnie d'importation, je les connais pas. REZDN, je connais personne là, mais ils ont toujours des très bons choix. Honnêtement, je suis jamais tombé sur quelque chose de pas bon qui vient de raisin. Fait que c'est un super beau Côte-du-Rhône qui coûte 18,20 $, puis je vois que c'est pas très, très bien, des grillades, ainsi de suite, puis tu peux y garder une coupe d'anneau aussi.
Fait que les grillades s'en viennent.
Ça. Les grillades s'en viennent. Écoute, normalement, ben là, on est
J'étais pas sûr un matin, là.
Comment ça?
Ben là, c'est tellement froid dehors, là.
Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai.
C'est mieux, là.
Ben là, c'est mieux, oui, mais ce matin, il faisait moins 13 chez nous, là.
J'étais content de tourner en dedans, moi.
Hey, c'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, j'ai un étang en cours, puis quand je suis revenu de vacances, il était en eau, il n'y avait pas de glace, on n'a presque pas joué au hockey dessus cet hiver. Fait que, à ce temps-ci de l'année, tu sais, les canards reviennent, puis les bernaches, tu sais. Fait qu'à un moment donné, un matin, là, je vois que ça avait gelé pendant la nuit, puis là, j'entends « ouin, ouin, ouin » les bernaches qui arrivent. Je dis « Oh boy », j'ai dit « ils vont trouver que l'eau est dure ». Mais finalement...
Ils sont habitués.
Ils sont habitués, c'est ça. Non, un bel atterrissage, franchement. Là,
c'est les tétards qui doivent être mêlés. On sent-tu?
Ils ont glissé sauf au deuxième but, en tout cas.
Non, c'est ça.
Et ta piquette puis ton grand cru, comme à toutes les semaines, mon Dieu.
Ben écoute, mon grand cru, j'en ai deux. C'est naturellement... Dina, comment prononce son nom? Dina et Maxime, d'accord, médaille d'or.
Oui, c'est Dina. Jenna.
C'est ça, je t'ai mêlé un petit peu tantôt.
Je t'ai mêlé parce qu'il n'y a pas de G dans le nom, mais
c'est ça. Ouais. Naturellement, leur médaille d'or, ça, c'est vraiment, vraiment cool, surtout ici à Montréal.
Incroyable.
La vente des billets pour le match des filles en 30 minutes, là, ça m'a dit en affaire, ça m'a donné un petit kick, là, remplir le Centre Bell en 30 minutes. C'est vraiment, vraiment le fun. Ils ont été tellement d'années dans l'ombre que là, les clubs féminins ressortent, puis je trouve ça bien, bien cool.
Vraiment.
Piquette, je dirais la Ligue nationale de hockey encore une fois. Je pense que ça fait 3 semaines que j'en ai parlé, là, suite au suicide de Chris Simons, puis avec tout ce qui se produit avec ces joueurs-là depuis quelques années, là, les Bogart, puis les Wade Bilak, puis ces gars-là de ce nom, les John Cody que j'ai connu à l'époque, Todd Ewan, que j'ai connu à Montréal, qui était un chic type, c'était un gars vraiment fin.
Probert.
Écoute, moi,
ben
là.
Ouais.
Mm-hmm.
Probert.
Ben, probablement Probert. Ouais. La liste est malheureusement longue. Puis c'est pas plus grave parce que c'est des joueurs de hockey. Là, je vais être bien clair là-dessus. Là. Sauf que c'est directement relié au coin de la tête parce qu'ils ont vécu. Moi, j'ai déjà dit personnellement, c'est une bataille au hockey, ça va toujours arriver. T'arrives, mettons, un Brent Gallagher dans le coin, puis ça se tapoche, puis ça. Mais tu sais, des batailles stagées, comme on appelle, là. Moi, quand ça se parle dans le warm-up...
Ouais, planifié, là.
En gaga, ouais. Planifié. Écoute, ben, là, comme l'autre soir, Nicolas Deslauriers, puis...
Reeves aussi.
Moi, des enfants de même, là. Ça, je suis plus capable. Je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme règlement. Ça, je suis plus capable. C'est dangereux pour ces gars-là. Tu sais, je l'ai vécu, là, je suis dans le hockey depuis j'ai 16 ans, là, puis j'en ai vu dans le junior dans le temps, là, les gars, on arrivait à Chicoutimi, puis une demi-heure avant d'arriver, les gars tough étaient, ça vomissait dans, en arrière, dans les toilettes, dans l'autobus, puis j'ai vu des gars...
Ils sont nerveux, ils ont
mauvais. Ben, écoute, ben, toi, c'est... Honnêtement, je pense que j'en ai seulement 2 ou 3 dans tous les joueurs que j'ai connus ma carrière qui aimaient vraiment ça, là. Mick Vicota, c'en était un. Puis lui, c'était d'un bar, c'était n'importe où, lui, il adorait se battre. Puis Chris Nyland, c'était un autre, c'était un batailleur de rue, c'était un vrai de vrai. Mais la plupart de ces gars-là, là, écoute, l'angoisse qu'il dit. J'ai pas connu grand gars de cette gang-là qui a pas de problème d'alcool. Ou,
Il s'est entendu jouer Junot nous raconter, parce que c'était un grand chum de Chris Simon.
Il était fâché, parce que t'as vu le titre du Journal de Montréal, toi, dans le coin, un autre goon qui, tu sais, ça manquait de respect un petit peu. Là. L'encadré du Journal de Montréal, c'était pas fort. C'est pour ça qu'il était. Je l'ai vu passer le truc de jouer, il était en tabarnak, excuse-moi.
Oh, oui, non, écoute. On est d'une zone libre, c'était pas de problème, mon autre. Pas d'excuses. Mais lui, tu sais, il rentrait à la maison avec Chris, dans le char avec lui, tu sais, puis. Tu sais, il se sentait mal, tu sais, il avait gagné son combat contre Probert dans une finale. Puis après le match, il était aussi dévasté. Il était content d'avoir gagné, mais il était dévasté d'avoir magané Probert. Tu sais, puis il vit à... André Roy nous disait cette semaine, tu sais, que il jouait sa game avant la game parce qu'il s'imaginait tout ce qui allait se passer, puis il se vidait. Je sais pas si quand tu prépares un rôle intense, Claude, tu peux vivre des émotions. Tu sais, te préparer à quelque chose.
Oui, mais on n'aura jamais peur comme ces gars-là.
Ben non.
Tu sais, eux, un coup de poing, puis ça peut être fini, leur affaire. Tu sais, ou ils peuvent en tuer un. Tu sais, je veux dire, écoute, c'est des gars...
Ross, quand il était tombé, là.
Ben oui, c'est ça que j'allais dire.
C'est des gars très forts. C'est des gars hyper forts, très puissants, puis ils se battent sur des patins, sur une surface dure comme de la glace. Ouais. Fait que tu fais tout pour se tuer.
Ils n'ont pas des gants de boxe, là. C'est à main nue, là.
À main nue, en plus.
Et puis,
c'est un sport qui est archaïque là-dessus, vraiment.
Moi, ça m'a tout le temps fait peur, tu sais, quand tu fais partie d'une équipe, puis... tu vois les toughs, tu sais, j'étais 18 ans dans la Ligue nationale, puis j'étais, on a eu John Scott à Chicago, on a eu un dénommé Van de Bush, mes premières années à Chicago, puis ces gars-là, là, tu voyais avant le game, là, ils étaient sur une autre planète, là, tu sais, ils savaient que s'asseoir, ils pouvaient en manger une, et puis, moi, je me disais, quelle pression. Ces gars-là, ça dormait pas la nuit. C'était sur les painkillers. C'était sur les pilules pour dormir. Et puis, c'est un job, la pire job dans le hockey. Et puis, à l'intérieur, ces gars-là sont tellement respectés. À l'intérieur, ils sont tellement respectés parce qu'il n'y a pas beaucoup dans la chambre qui peuvent faire qu'est-ce qu'ils font. Et puis, même moi, je suis d'accord. À un moment donné, là, j'aime plus. Quand j'étais jeune, j'étais comme tout le monde, j'aimais ça, une ben bonne bataille. Puis ça faisait partie master, là. Je vois ça, là. J'ai peur. J'ai dit, ah non, j'espère qu'ils
seront pas mal. C'est une question de temps, hein. Ouais. Mais malheureusement, c'est une question de temps.
J'étais impliqué dans la Ligue Jean-Marie du Québec, là. Puis cette année, ils l'ont banni, hein. Cette année, là, c'est fini. Si tu te bats, t'es suspendu. Et puis, ça n'a pas changé la game, puis ça n'a pas changé rien. Puis, au contraire, moi, j'adore ça.
Mais t'as vu la réaction, par exemple, t'as beaucoup de dinosaures qui ont dit que les joueurs de la Ligue junior n'auraient plus de chance de faire de la Ligue nationale parce qu'ils ne savent plus frapper. On a entendu des termes que je nommerais pas ici en les traitant quasiment
peureux.
De peureux, puis de tous les autres mots qu'on ne peut pas prononcer là.
Oui, une ligue de mots.
Tu fais comme c'est une ligue où il y a encore trop de dinosaures qui prennent des décisions, tu sais. Faut évoluer. Le football a évolué. À un moment donné, on blessait tellement de corps arrière au football que tu tuais le show. Tu sais, puis à un moment donné, ils ont dit, on va protéger le corps arrière. Ben, effectivement, tu perdais ton, mettons, un Brady. Ben, l'équipe s'effondrait. Puis, écoute, c'est des trucs de télévision. C'est tout de l'argent qui s'en va. Les gens, écoute, ça lui tente plus de regarder. Regarde le scandale qu'il y a eu avec Messi qui s'est pas présenté à deux games, là. Les gens veulent être remboursés, puis je comprends. Fait qu'à un moment donné, là, faut arrêter ça, ces niaisages-là. Faut pas blesser les joueurs. C'est comme les gardiens. Tu sais, là, jouer, là, les playoffs approchent, là. Des fois, je trouve que les arbitres sont lousses. Ils commencent à être lousses. On peut y aller un petit peu plus dans le bleu, là. On commence à toucher le goaler. Ouais, mais c'est l'autre un peu qui l'a poussé. Tu touches pas au goaler. Ça finit là.
Ouais, non, lui, ça, c'est un bon gars.
Moi, je suis défenseur, moi. Je comprends ça. Tu touches pas au goaler.
Enfin, on parle avec quelqu'un.
Parce que le goaler, il check le puck. Le goaler, il check le puck. Il peut pas voir venir les coups. C'est impossible. C'est pas sa job. La Ligue doit protéger les goalers, doit protéger ses joueurs. Mais bon, je pense qu'il y a encore beaucoup de monde qui aime ça, des tapes à la gueule. C'est pour ça que ça
reste. Pour venir aux batailles, là, quand on, moi, tout, j'ai entendu ça. Comme je disais, je suis impliqué avec la Ligue Jean-Marie du Québec, avec les entraîneurs des gardiens de but dans la Ligue. Et puis, tout ça pour dire que quand au début de l'année, quand j'ai entendu les mêmes dinosaures, puis les gars, certains scouts que j'ai entendus quand j'étais allé dans les arénas de la Ligue Jean-Marie du Québec, disaient, voyons, ouais, mais ça, c'est pas bon pour la réputation des joueurs qui peuvent pas se battre. Gna, gna. En NCAA, ils se battent pas. Puis en Europe, ils se battent pas. En Suède, puis on les repêche quand même. Puis ils viennent ici, puis ils font des bons joueurs de hockey. Donc ça, là, c'est plus un argument, ça.
Mais moi, je pense que si le soccer puis le basket permettaient la bagarre, là, ça serait incroyable.
Ben là, en crosse.
Écoute, ça serait pas long au soccer, hein, tu sais. Mais il semblait de se frapper, puis ça serait déjà en train de rouler à terre.
Mais ceci étant dit, ça prend quand même, on l'a parlé tantôt, des gars comme Jacky à Montréal. Ça prend des gars qui savent jouer au hockey puis peuvent défendre leurs plus petits.
Voilà.
Ça, c'est sûr, ça prendra toujours ça, tant qu'à moi.
Pour bardasser un peu et dire, hey, regarde, ça va faire, là, t'en as assez fait.
Mais c'est la Ligue. C'est la Ligue à faire quelque chose. Parce que cette semaine, on a vu une bataille à Pizzetta, qui a une bataille pour absolument rien. En partant le match, il y a 3 minutes de jouer pour absolument rien.
Exactement.
Ça, c'est des batailles. T'as pas moins de ça. Quand ça arrive dans le feu de l'action, les appels, comme Jerv disait tantôt, ça, je peux vivre avec ça, mais pour absolument rien. T'as aucune raison de te battre. Le gars, il ne s'est rien passé encore. Fait que c'est ça qu'en ce moment, l'équipe.
C'est ridicule.
Mais les gars, santé. Cheers, comme ils disent.
Oui, cheers.
Et puis, on fait une première pause.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na.
au Centre Bell, le duo composé de Diana Sterlado-Doudek et Maxime Deschamps qui y va d'une excellente performance au programme libre. Sans gagner le programme libre, le cumulatif du programme, évidemment, où on a des figures imposées, le programme libre leur permet de remporter l'or devant la famille. Et c'est toute une histoire pour les deux patineurs qui se sont réunis il y a quelques années. On a le plaisir d'avoir avec nous ce soir en direct. D'ailleurs, je pense qu'il est au Centre Bell pour assister à d'autres compétitions. Maxime Deschamps, bonsoir Maxime.
Bonsoir.
Félicitations sur toi. Es-tu encore sur un nuage?
Ah, vraiment, j'ai tellement d'émotions qui se passent présentement. Je suis encore sur l'adrénaline d'hier soir. J'ai pas réussi à dormir encore. Ça fait un moment vraiment incroyable.
Ben, j'imagine. Résume-moi là, tout ce qui te passe par la tête qui t'empêche de dormir depuis hier, après avoir porté dans les nuages ta partenaire dans plusieurs des figures que vous avez exercées pendant le programme.
Mais dans le fond, ça fait longtemps que je travaille super fort. Ça fait 25 ans que je pratique le patinage. Donc, c'est tout le travail que j'ai fait tout au long de ma carrière qui fait que maintenant, je suis où ce que je suis et que j'ai pu faire ça hier soir. Puis c'est vraiment tout ce sentiment-là qui est ressorti. Puis là, c'était juste comme un moment de joie d'avoir réussi à produire deux belles prestations comme ça au Centre Bell hier.
Quels sont les sentiments qui t'habitent quand tu propulses ta partenaire dans les airs en espérant que l'atterrissage se fasse correctement, comme hier, avec quelque chose à gagner, mais quelque chose à perdre, puisque vous dominiez après la première séance, bien sûr?
Dans le fond, au moment, juste avant que j'allonge, je pense vraiment à mes mots-clés, à mon rythme pour la lancer, mais une fois qu'elle est dans les airs, je prie, je pense, OK, let's go. Puis là, elle réussit quand? Yes, puis on continue, puis on passe à la prochaine chose.
Et c'était vraiment particulier hier, je sais pas si tu le sentais, même bon via, j'étais pas sur place, mais via la télévision en reprise, parce que j'étais en direct à la radio hier, puis je le revivais comme si je le vivais en direct, même si je connaissais le résultat, mais les atterrissages, là, c'est comme, il y a toujours une petite fraction de seconde où tu te demandes si ça va passer ou ça va casser, hein?
Ah, vraiment. Mais la foule hier soir était incroyable avec nous. Ça nous a vraiment supportés pour passer surtout la deuxième partie du programme. On leur doit chapeau de nous avoir supportés comme ça.
Tu dis que tu as commencé à patiner. Quel âge avais-tu quand tu as commencé? Puis quel a été le premier aréna sur lequel tu as pu effectuer tes premiers coups de patin?
Mes premiers coups de patin, j'avais environ 4-5 ans à Vaudreuil.
OK.
Ouais, fait que je viens de Vaudreuil. Ma mère m'a inscrit au patinage artistique pour apprendre à patiner pour jouer au hockey. Finalement, ben j'ai eu la passion pour le patinage et j'ai continué là-dedans.
As-tu fait les deux en parallèle un certain temps, comme mon ami David Pelletier, que tu connais sans aucun doute, lui-même médaillé d'or des Jeux de Salt Lake City?
Oui, j'ai joué un petit peu au hockey, mais ça n'a pas été long que j'ai dû me concentrer seulement sur le patinage. J'avais un frère aussi qui faisait patinage et hockey, puis c'était juste trop pour ma mère de pouvoir voyager toutes les arénas. Fait qu'elle nous a demandé de décider chacun un ou l'autre.
Avec quoi es-tu tombé en amour dans la pratique de ce sport-là dès un jeune âge pour persévérer pendant tout ce temps-là jusqu'à ce moment de gloire vécu hier soir?
Je me souviens, c'est vraiment... C'est drôle que tu as parlé de David Pelletier. J'ai regardé 2002 les Olympiques, puis cette journée-là, j'ai fait c'est ça que je veux faire. Puis c'est vraiment ce moment-là qui a déterminé que je voulais patiner.
Wow! Je sais pas si David sait ça, mais je vais l'appeler pour une entrevue la semaine prochaine puis lui faire entendre ce bout-là parce que ça doit être le fun. Comme toi, tu en as sans doute inspiré hier avec ta partenaire.
Ah, j'en suis persuadé. J'avais plusieurs. Patineuse que j'entraîne, qui était là à l'aréna, plusieurs aussi avec qui je m'entraîne. Puis vraiment, je suis sûr que ça les a touchés. Puis j'espère vraiment qu'ils vont être capables de prendre ça puis de pouvoir rêver aussi.
On a découvert votre histoire au cours des derniers jours. Donc, Diana, qui n'avait pas patiné pendant de nombreuses années, Maxime, toi qui avais un TDA. En quoi le TDA a été pour toi ou a amené de l'adversité dans ton cheminement d'athlète?
Avec mon TDA, dans le fond, ce que ça a produit, c'est que j'étais vraiment inconsistant en pratique. J'étais comme des montagnes russes. Je pouvais arriver pour des périodes de temps où j'arrivais plus à rien faire. Puis là, je tombais vraiment découragé. Puis ça, ça a vraiment été difficile. Puis des fois aussi avec mes partenaires, ça fut difficile à cause de ça. Mais maintenant, j'ai développer des outils pour passer au travers. Puis dans le fond, quand je descends, ben je remonte beaucoup plus rapidement.
Je trouve ça intéressant, la porte que tu ouvres. Et étant moi-même TDA, j'ai envie de fouiller un petit peu dans cette avenue-là quand tu dis avec tes partenaires. Sais-tu que des fois, si tu dis que tu étais irrégulier à l'entraînement, ça pouvait-tu avoir l'air d'un gars qui peut-être, pas qu'il s'en sacrait, mais qui était pas concentré, qui avait pas le même désir que les autres, alors que c'était pas ça le problème?
Oui, exactement. Ça a souvent été quelque chose que je me suis fait reprocher, que j'étais pas concentré ou des choses comme ça. Mais c'est juste, il y avait rien qui fonctionnait. J'essayais, j'avais beau essayer, ça fonctionnait pas. Puis plus j'essayais, plus que dans le fond, j'avais de la misère. Fait que non, vraiment, ça a été difficile. Ça fait une pression aussi sur mes partenaires, parce que des fois, ils pensaient que c'était aussi eux, des fois, le problème. Donc, non, ça n'a pas été tout le temps facile.
Dis-moi, ta rencontre avec Diana Stelato-Dudek, là, c'est quand même incroyable, là, la destinée. Comment vous vous êtes rencontrés?
Avec un de mes anciens entraîneurs, qui nous a proposé que l'on fasse un essai ensemble. Puis on avait prévu un essai d'une certaine période de temps, mais dès les premiers coups de patin ensemble, ça a été le coup de foudre.
Et dis-moi, c'est quoi, une quinzaine d'années qu'elle a été absente de la compétition? Fait qu'au début, je sais pas si tu avais un doute à l'idée de rencontrer quelqu'un puis d'espérer de gagner un championnat du monde un jour avec quelqu'un qui est à la retraite depuis 15 ans.
Oui, ben exactement. Elle a arrêté 16 ans de temps. Elle a pris sa retraite, elle avait 17-18 ans à la suite d'une blessure. Puis après ça, elle a été faire vivre sa vie normale. Elle avait un emploi normal. Puis, dans le fond, elle a eu une activité avec son groupe de travail. Elle a pigé une carte, puis ça disait « Qu'est-ce que vous feriez si vous ne pouviez pas échouer? » Puis, immédiatement, elle a répondu « Gagner une médaille olympique. » Puis, c'est de là qu'est repartie son histoire pour le patinage. Puis de là, ben, on connaît la suite pour tout le reste.
Vous, là, quand vous êtes juste vous deux ensemble, vous connaissez quoi depuis quelques années à peine, là, de Maxime?
Exactement. On a commencé à patiner ensemble tout juste avant la pandémie. Donc, c'est vraiment de là qu'on a appris à se connaître.
C'était vraiment beau et émouvant de vous voir hier après que les notes aient été diffusées, publiées et de constater que vous étiez maintenant les champions du monde. Parce que l'un sans l'autre, vous n'êtes pas là, puis c'est une histoire improbable. Comment vous, ensemble, vous connectez à travers cette histoire?
On a chacun des histoires complètement différentes, mais au bout de l'histoire, on se rejoint avec la persévérance, la détermination, notre passion pour le sport puis le rêve qu'on a de se rendre à une médaille olympique.
L'avais-tu visualisé, ce moment-là?
Plusieurs fois. Beaucoup, surtout dans les dernières semaines, depuis le début de la saison même. Je commençais, mais dans les dernières semaines, je le visualisais, même je pratiquais. Puis vers les fins des programmes, j'ai dit « OK, là, on s'en va en direction d'une médaille d'or ». Que je voulais créer l'excitement, mais de pouvoir me contrôler au travers du programme.
Hier, semble-t-il que la période d'échauffement n'a pas été facile, mais c'est à ça que ça sert, un échauffement. C'est pas comme au hockey où tu fais juste shooter sur le goaler, entre guillemets, là. Je veux dire, tu sais, alors, est-ce que c'est insécurisant quand tu sens que, oups, on dirait que c'est pas top, là. Les sensations sont pas encore maximales avant d'y aller pour la grosse performance. Est-ce que ça vous a insécurisé momentanément hier?
Je vais parler pour ma part. Pour moi, non. On s'est entraîné toute la saison. Non, ça ne dérangeait pas comment on se sentait à l'entraînement. Donc, on savait qu'à l'entraînement, quand on se sentait pas bien, on était capable de faire des très belles performances. Donc, dans le fond, quand on a commencé hier sur la glace pour aller faire notre programme, on s'est dit c'est juste une autre journée au travail, puis on s'amuse. Donc, on avait confiance qu'on pouvait le faire. C'est sûr que quand même un petit doute, mais plus que le programme allait, plus ça allait bien, puis plus qu'on s'est juste fait porter par la vague.
Tu parles d'une autre journée au travail, puis j'ai envie de compléter l'entrevue avec ça, parce que, écoute, c'est très impressionnant. T'es un patineur, mais t'es tout un athlète. Qu'est-ce que ça représente, là? Tu sais, tu parlais des années d'entraînement, mais si on essaie de résumer une semaine d'entraînement en termes de cardio, patinage, musculation, puis j'en oublie sans doute peut-être de la préparation mentale, c'est quoi une semaine, entre guillemets, de travail pour être champion du monde comme tu l'es maintenant?
On commence à 8 heures le matin, puis régulièrement, on finit à 4 heures le soir. Puis même, Diana rajoute encore plus de temps que ça avec la récupération parce que elle a 40 ans maintenant, puis à 40 ans, mais c'est pas facile, puis elle doit faire au moins 2 à 3 heures de récupération par jour pour être prêt pour le lendemain.
Là, rêvez-vous aux Olympiques? Y a-t-il possibilité que Diana... Parce que je comprends que tu le prononces Diana. Là, moi, je disais Diana tel qu'écrit. Mais rêvez-vous aux Olympiques? Pourrait-elle obtenir sa citoyenneté canadienne?
On espère de le recevoir. C'est sûr que on est dans les délais prescrits pour recevoir la citoyenneté. Mais c'est sûr que ça l'aiderait d'avoir un petit coup de pouce pour accélérer, avoir la citoyenneté, pour s'enlever une pression supplémentaire.
Après avoir célébré avec ton équipe, là, avec qui tu avais envie d'avoir une accolade, je sais pas si tes parents étaient là hier, mais je parle au-delà de ta garde rapprochée qu'on voyait à la caméra, à qui tu avais envie, avec qui tu avais envie de partager ce moment-là?
Avec toute la foule au complet, toute la famille. J'avais tellement de famille, d'amis dans les estrades, des patineurs que j'ai entraînés, que j'entraîne aujourd'hui, des anciens patineurs, des anciens collègues d'entraînement qui étaient tous là. Fait que ils m'ont tout le temps supporté, ils m'ont supporté tout au long, malgré les hauts, les bas, puis c'est avec eux que j'étais content de le faire devant eux hier.
Ben bravo à vous deux, Maxime. Merci de l'entretien. Bonne soirée. Je sais que tu vas aller regarder tes camarades patiner. Alors amuse-toi bien, puis continue de planer sur ton nuage aussi longtemps que possible.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir. Maxime Deschamps, nouveau champion du monde avec sa partenaire, l'Américaine, qui avait été 16 ans absente de la compétition, Diana Stelato-Doudek.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté.
Hey, Maxime Lapierre qui est avec nous. Bonsoir, Max.
Salut, Mario.
Ton ancien club t'a trop fort hier.
Oh, c'est bon à voir, pareil. Hein? Je suis content de voir ça, Mario. Tu sais, c'est une belle ville pour jouer au hockey, puis de voir une équipe qui est, on s'entend, en mode série, là, même si on a connu un bon départ, puis ça ralentit par la suite, mais tu vois l'équipe hier, puis tu te dis, ouf, je pense que ça va, ils vont peut-être causer une surprise en série, parce qu'on parle beaucoup des Golden Knights, des Panthers, mais ils sont construits sur mesure. Les mises en échec, l'échec avant, la discipline, la structure de cette équipe-là. J'ai été très, très impressionné hier, je t'avoue.
Je parlais avec André Tourigny hier, qui coach évidemment dans l'Ouest, qui venait de jouer contre Dallas. Puis bon, Dallas, on parle pas de Dallas comme d'un favori, mais en même temps, tu sais, ils ont le même nombre de points que Colorado, que Winnipeg, Vancouver 96, t'as Edmonton qui ont eu un début de saison difficile, fait que le nombre de points t'en tient pas trop compte parce que tu sais que c'est une puissance. Kings, les Prédateurs qui sont sur une lancée épouvantable. Et puis, oui, puis t'es juste à la porte des séries, t'es champion de la Coupe Stanley défendant. Pige un numéro là-dedans. Tu sais, qui va sortir de là dans l'Ouest?
C'est impressionnant, hein? Puis je pense que ça va jouer devant le filet. Tu sais, quand tu arrives à analyser toutes les équipes, puis tout le monde a des joueurs étoiles, tout le monde a des bons défenseurs, tu te dis, il y a un gardien dans la gang. En tout cas, j'ose espérer qu'il y a un gardien dans la gang qui va aller voler une série ou voler la conférence d'une certaine façon, parce que ça, tu sais, j'ai rarement vu ça. Je me rappelle pas d'avoir vu ça aussi serré. Je dois t'avouer, Mario, là, c'est on dirait que c'est toutes des puissances. C'est même les Kings de Los Angeles, là, c'est toute une équipe de hockey, là. Ils ont eu une mauvaise séquence, mais tu regardes ça en ce moment. Est-ce qu'ils sont capables aussi de causer une surprise? J'ai aucune idée. Moi, je vais y aller avec le gardien de but. Tu sais, je vais y aller par élimination. Je pense que Winnipeg puis Vegas, Dallas aussi, c'est les plus forts devant le filet, selon moi. Et je serais pas surpris que c'est eux qui sortent gagnants.
Et écoute, mais Vancouver, s'il y avait un club canadien, je le souhaiterais. Vancouver n'a jamais gagné la Coupe Stanley. Une participation à la finale, t'en étais. Ça a été la seule dans toute l'histoire de la franchise. Ça a passé proche, pareil, hein?
Ouais. Un peu trop.
Vraiment. Un peu trop. Qu'est-ce que t'as à dire sur ce que tu vois du Canadien? C'est quand même une 13e défaite à leurs 16 derniers matchs. On fait le décompte, là, mais c'est ça qui est ça, pareil.
Ouais, ben écoute, hier, je pense que c'est évident là, quand tu regardes l'échec avant de la part de Vancouver, ça me fait réaliser qu'on a encore beaucoup de travail à faire avant d'être une équipe gagnante de la Coupe Stanley, mais qui va entrer en série et avoir du succès aussi. Là, tu sais, je trouve que la rapidité d'exécution des équipes comme Vancouver, on n'est pas rendu là, que ce soit en sortie de zone, en échec avant, le jeu physique. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais mentionné en début de saison que la vitesse d'équipe m'inquiétait un peu pour le futur. Ben, je pense que ça doit faire partie, moi, je veux pas dire urgent, là, mais dans les plans, dans les deux prochaines années, d'amener de la vitesse à la un peu le style d'Alex Newhook. T'sais, on peut le voir qu'il est capable de changer les choses juste avec sa vitesse, l'échec avant, les replis défensifs. Je trouve qu'il manque de ça un petit peu dans l'alignement du Canadien. C'est pas naturel de patiner. On a des bons joueurs de hockey, mais de la vitesse, ça corrige beaucoup d'erreurs sur la patinoire. Puis hier, on l'a vu du côté de Vancouver. Lorsque, tu sais, il y a un moment donné dans le match, il y avait pas un grand match, les Canucks, mais ils ont décidé de peser sur le gaz en échec avant. Puis pour moi, c'est ce qui a changé le match. Donc pour le Canadien, hier, je trouvais que c'était ça la faiblesse, c'était la vitesse. Puis ça veut pas dire de patiner vite en ligne droite, Mario, c'est la vitesse d'exécution aussi. Okay. Là, c'est pas juste les patins.
OK. Mais un peu des deux. C'est sûr que de la vitesse pure, de la vitesse brute, c'est toujours utile. Tant qu'un gars et le GPS qui viennent avec, tu sais, parce que, tu sais, Josh Anderson. Non, mais c'est vrai. Parce que, tu sais, Josh, il patine, mais il m'a dit que lui, la boussole, on ne sait pas trop s'il l'a oublié dans, il l'a oublié au camp de chasse, lui, là.
Ouais, ben, je vais t'avouer que je trouve que tu patines un peu moins vite que l'an passé quand même, mais je suis tellement d'accord avec toi. Faut avoir un objectif aussi dans ta trajectoire. Puis Anderson, hier encore, Mario, pas de lancer au filet, je trouve ça, ça m'impressionne. T'sais, dans un match où tu te dis un Josh Anderson, dans un match physique où c'est un style de hockey qui joue comme en série, tu te dis peut-être qu'il va sortir du lot, mais non. T'sais, je continue à dire que c'est, je sais pas si c'est de la concentration ou de l'effort, mais il y a définitivement moins de passion que certains de ses coéquipiers, ça c'est sûr et certain.
Commences-tu à t'ennuyer du coach?
Ben, sais-tu quoi, hier, je pensais à ça en regardant le match, puis je me suis dit, ça change la façon de voir le Canadien pareil, hein, quand Martin Saint-Louis n'est pas là. T'sais, oublions la structure puis le système de jeu, là, mais on dirait qu'il manque vraiment un petit quelque chose côté personnalité à l'organisation. Puis ça paraît quand Martin est là dans ses entrevues d'après-match ou lorsqu'il parle d'un de ses joueurs. On dirait qu'on s'est attaché un petit peu à ses discours qui sortent de l'ordinaire quand même. Parfois, là, on s'entend qu'il dit les choses comme il pense, puis c'est un bon vendeur aussi. T'sais, pour moi, c'est le leader de cette organisation-là. On a un jeune capitaine qui fait des bonnes choses à patinoire, mais on a un leader qui sort de la game quand même là, à sa façon. Je trouve qu'il est très important, Martin Saint-Louis, pour ce groupe-là.
Ben, quand l'équipe, je le dis là, pas au premier degré, mais entre guillemets, quand la secte perd son gourou, c'est sûr et certain que ça ébranle les croyances à la limite. Puis c'est là que tu vois à quel point l'adhésion des gens, au-delà des déceptions de résultats souvent, tient à lui. C'est lui vraiment le lien, le guide, appelle-le le chaman, appelle-le comme tu veux. Mais et effectivement, et s'il devait ne pas revenir, puis je pense qu'il va revenir éventuellement, mais la patience à laquelle le Canadien a droit en ce moment, ça pourrait être différent.
Ben, je m'en allais dire ça. Je pense que les partisans puis tout le monde, dans le fond, on a acheté la reconstruction. Puis c'est en grande partie à cause de Martin Saint-Louis puis sa façon de s'exprimer, parce que je suis pas sûr que c'est tous les entraîneurs qui auraient réussi à nous vendre ce produit-là. T'sais, on dirait qu'on embarque dans ça puis qu'on y croit justement à cause de sa carrière qu'il a eue comme joueur. Là, on s'entend que on sait que c'est un gagnant, fait qu'on achète quand même sa vision. Puis je trouve que c'est un gars important. Puis je vais t'avouer, Mario, j'ai vraiment hâte, puis j'espère qu'il va être là le jour qu'on va dire on a un alignement qui est supposé de faire les séries, parce que j'ai hâte de voir comment il va se comporter comme entraîneur, Martin Saint-Louis. J'ai hâte de voir c'est quoi son plan de match, c'est quoi les petites modifications qu'il va amener dans son système de jeu lorsque ça va être le temps d'ouvrir la machine. J'ai l'impression qu'il y a des petits secrets cachés, moi, de ce côté-là, tu sais, des jeux truqués puis des systèmes de jeu qui vont aider contre différentes formations. Je le vois, moi, ça, en Martin Saint-Louis.
OK, tu penses qu'il y a une couple de deux frimés, mais il ne sort pas tout de suite?
Oui, moi, je pense que oui. Parce qu'il y a trop d'expérience, il y a trop joué dans des bonnes organisations, sa combativité, sa patinoire, le mix de talent puis de caractère. Je me dis qu'il y a des choses qu'il est capable d'enseigner à des jeunes à ce stage-ci dans leur carrière, mais t'ajoutes 2-3 ans à tous ces gars-là, là, les Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Goulet, Jacquet, puis tu dis, il va amener une twist à un moment donné qui va être différente. Mais en tout cas, moi je pense que c'est ça.
Si je te demande, Maxime, à ce stade-ci, on approche du dernier droit, on est dans le dernier droit de la saison, et bon, Martin, l'absence se poursuit, donc ça nous permet de regarder l'ensemble du reste du portrait. À part Martin Saint-Louis, quel individu est pour toi la plus grande source d'espoir que ça va aboutir, ce processus-là?
Je veux pas mettre Nick Suzuki à côté de l'équation parce qu'il connaît toute une saison, mais Slavkovski, pour moi, Mario, c'est le prototype de joueur qui te fait gagner. C'est sa façon de se comporter, sa patinoire en échec avant, d'utiliser son physique, le sourire, tu sais, il démontre du caractère même quand ça a mal été durant la saison. il a démontré qu'il était toujours en contrôle de la situation, même s'il était peut-être pas heureux intérieurement. C'est le style de joueur avec qui tu gagnes en série. Puis si tu combines ça à Nick Suzuki, la façon qu'il se comporte lui aussi, sa patinoire cette année, son leadership pour un jeune joueur qui a toute une mission quand même, parce que c'est pas facile. Le cadeau qu'a reçu Nick Suzuki d'être en plein milieu d'une reconstruction comme jeune capitaine dans la Ligue nationale de hockey, puis il performe quand même à un haut niveau. Moi, pour moi, ça me donne confiance. C'est ces deux joueurs-là, puis ça, puis l'attitude. Je parle pas du jeu, là, je parle pas du patin, je parle pas des décisions de sa patinoire, mais l'attitude des jeunes défenseurs, je trouve qu'ils ont déjà beaucoup de vétérans en eux. Je trouve qu'ils sont très matures, ils s'expriment bien devant les médias, ils jouent un jeu physique. Pour moi, c'est tous des petits morceaux qui font qu'un jour, on va gagner.
Ben, j'aime ta réponse, puis bon, oui, je pourrais dire parce que tu dis ce que je voulais entendre, mais je pense que c'est évident en même temps. Tu sais, quand tu dis ce que je veux entendre, Maxime, maudit,
c'est un critère important, ça, Mario.
Je te trouve excellent. Non, mais pour vrai, Slavkovski, écoute, il y a quelque chose qui m'inspire, puis je vais tout de suite te parler d'un sujet plate par rapport à lui. C'est la négociation contractuelle qui va suivre. L'an prochain, il va amorcer sa dernière année de contrat d'entrée. Puis, tu sais, tu regardes, il y a eu, en termes statistiques, ça a été un lent départ. Il est quand même à 38 points. Et on le sait là, que depuis, là, quelque part autour de janvier, tu sais, il y a une production régulière. Moi, j'attendrais, j'irais pas sur un contrat de transition avec lui. T'as-tu commencé à réfléchir à comment il vaut? Puis je suis convaincu que Kent Hughes a déjà des chiffres sur la table ou dans sa tête.
Ouais. Ben, moi, c'est sûr que c'est pas de transition non plus. Par contre, combien il vaut, ça devient complexe. C'est sûr et certain que tu dois te tourner d'une certaine façon vers les contrats de Caulfield et Suzuki parce
absolument
que c'est eux de l'organisation. Il y a un facteur, par contre, que Slavkovski a, que les autres n'ont pas, selon moi, là, c'est que il change la donne sans avoir de points sur un trio. Tu sais, en ce moment, là, il crée beaucoup de place pour Caulfield, Suzuki. Il récupère beaucoup de rondelles libres. Il protège beaucoup de rondelles, plus de temps de possession en zone offensive. Puis ça, ben, ça permet aux artistes, justement, comme Nick Suzuki, de faire leur travail, de faire des belles passes, de faire des beaux lancers, de la possession de rondelles, comme je viens de le mentionner. Donc, tu sais, ça va être dur d'évaluer juste les statistiques dans son cas. Puis c'est difficile aussi de savoir c'est quoi son plafond à lui. Jusqu'à où il est capable de se rendre? Parce qu'on s'entend, il est arrivé une journée à l'aréna cette année. Je me rappelle plus après quel match. Je pense que c'est après le match à Buffalo où il y avait eu un combat. Puis c'était plus le même homme. Il était complètement différent de sa patinoire. Tu sais, il y a eu une petite évolution, mais c'était incroyable là, comment ça a changé en une courte période de temps. Donc, je sais pas jusqu'à où il est capable de se rendre, mais je serais pas gêné, parce que je pense que dans le hockey, il faut qu'il se prenne des risques d'une certaine façon à un moment donné. Je serais pas gêné d'y offrir des contrats dans le même style que Suzuki Caulfield, parce que moi, je pense qu'un jour, s'il continue son évolution dans la bonne direction, il va être sous-payé à ce prix-là. Je suis convaincu que dans, puis là, on s'entend, là, je te parle de sous-payé dans le monde de la
Ligue nationale. Dans le business de la Ligue nationale, je suis complètement d'accord avec toi.
Et je pense qu'à 7-8 millions dans 4 ans, ça pourrait peut-être être un beau rabais.
Fait que c'est pas là-dessus qu'on va s'assiner en soir, Maxime?
Bon, mais ça va bien nos affaires, Mario. Les vacances ont fait du bien.
Ouais, ça doit être ça, Maxime. Je sais pas, mais non, mais pour vrai, même que je me demande si, parce que j'adhère à tes arguments, si on va pas être obligé d'aller plus haut que ce qu'on a donné à Caulfield et Suzuki. Parce que, ben, veut pas, Suzuki, son contrat déjà une couple d'années d'ancienneté, puis ouais, lui, ben, c'est un cheval. Puis il y a un intangible qui... Tu sais ce qu'il disait, là, tu sais, quand on dit... Il s'annonçait lui-même comme un gars qui voulait faire la différence, puis je pense qu'il va en faire.
Ouais, mais faut jamais comparer les contrats non plus entre joueurs. Faut pas oublier dans l'équation, c'est un comparatif à tes coéquipiers selon la masse salariale de l'époque. Tu sais, faut calculer ça dans le calcul, puis t'as raison, à un moment donné, je pense que à sa façon, à cause de l'époque dans laquelle il joue, Slavkovski devrait théoriquement faire un peu plus que ces gars-là. Si on planifie que le plafond salarial va monter, et si on planifie, tu sais, Suzuki a signé contre 2-3 ans, si je me trompe pas, ou
Oui, Suzuki, je vais te le dire exactement. Là, je suis exactement dans ces affaires.
C'est quand même des contrats qui ça valait pas juste d'être signé là, dans le dernier mois.
Non, il finit sa deuxième année de contrat, puis il l'avait signé comme avant de finir son autre, comme Caulfield d'ailleurs. Il l'avait signé comme si Slavkovski signait l'été prochain en entamant sa dernière année de contrat d'entrée. C'est exactement la même affaire. Ça. Fait que, ben Max, écoute, on va arrêter ça là pendant que ça va bien. Non, mais ça va ben toujours oui, bien. On se taquine. Ouais. Mais je te souhaite une bonne fin de semaine, mon ami.
Salut, mon ami. Bonne fin de semaine, toi aussi.
Merci, bye-bye. Max. Bye-bye.
réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport.
Antoine Roussel qui est avec nous ce vendredi. Salut Antoine.
Salut Mario.
Oh, t'as retrouvé la forme, t'as retrouvé la voix. Je sais pas quel a été le remède de cheval.
Écoute, un peu de sirop d'érable, un bon petit réduit et une bonne journée de labeur à la cabane, ça te remet un homme sur pattes.
Extraordinaire. Parle-moi de ça. Avais-tu de l'intérêt à regarder le match de Tekkenox contre les Canadiens jusqu'à la fin hier? D'un point de vue de partisan du Canadien, les matchs, veux pas, parfois peuvent devenir moins intéressants, là.
Ben non, j'adore regarder encore le Canadien parce que ce qui est important pour moi, c'est de regarder encore l'évolution de certains joueurs, puis voir ceux qui lâchent complètement. Exemple, Josh Anderson qui a débranché la machine à fonctionner, et ceux qui abandonnent pas, qui ont encore à cœur l'équipe, encore à cœur leur saison. Je pense à un gars comme Caulfield notamment. Hier, première fois que je vois, c'est fait plusieurs matchs que je le vois être impliqué d'une manière physique, chose qu'on ne voyait pas nécessairement faire en début de saison. Et je l'apprécie parce que ça fait avancer son jeu et donc ça fait avancer l'équipe. Donc pour moi, regarder ces genres de petits détails, j'ai trouvé ça très bon. Exemple, hier, il a frappé solidement Elias Pettersson qui en a perdu l'équilibre. Donc pour moi, ça c'est de se dire qu'on a un bon jeune à la bonne place et que bien entouré avec un deuxième trio et une équipe plus compétitive, ben là ça peut devenir intéressant encore plus.
Je te parle d'un des éléments qui continue, je pense, d'entretenir l'espoir que le Canadien va avoir une très bonne équipe éventuellement, c'est la progression d'évolution du numéro 20, Juraj Slafkovský. Quel genre de contrat t'es prêt à lui consentir? Parce que veux pas, tu sais comment ça marche. Il va entamer sa dernière année de contrat d'entrée l'an prochain. Et le Canadien va déjà devoir cet été se brancher à savoir est-ce qu'on lui offre un contrat de transition ou un contrat à la Caulfield des Suzuki.
Alors moi, je lui offre un contrat à la Caulfield des Suzuki et je regarderai un gars comme Tage Thompson. Il faudrait qu'il soit dans la même veine que Nick Suzuki puis Caulfield, parce que sur une saison complète, cette saison, à performer comme il l'a fait dans les 45 derniers matchs. C'est vraiment une grosse saison. Il aurait eu une soixantaine de points. Puis je m'attends pas à moins l'année prochaine. Je m'attends à mieux encore, ou du moins qu'il affirme ce qu'il a déjà eu cette année. Mais je serais pas surpris qu'on l'améliore. Imagine si l'équipe était flanquée d'un deuxième trio qui fait peur aux autres équipes. Ces joueurs-là auraient plus de temps, plus d'espace, ramasseraient plus de points, seraient encore meilleurs. Donc pour moi, Slafkovský, c'est vraiment pas en bas de Caulfield puis Suzuki. Pour moi, ça doit être un 8 ans et quasiment un 8 pour 8. Puis là, tu auras un très, très, très bon deal.
Autrement dit, puis j'abonde dans ton sens, je pense pas que le DG va pouvoir le garder en bas de Suzuki. Parce que si t'es l'agent de Slafkovský, je vois pas pourquoi tu accepterais de te faire plafonner, de dire non, on peut pas payer quelqu'un plus cher que le capitaine. Un contrat Suzuki achève sa deuxième année de contrat, mais d'un contrat qui a été signé il y a presque 3 ans déjà, là. Tu sais, fait que le marché change.
Non, c'est sûr, le marché change. Quand Suzuki a signé son contrat, on sortait de la pandémie, il y avait plein de facteurs qui faisaient en sorte que les perspectives d'avenir étaient quand même assez limitées. Mais maintenant, les perspectives, c'est que le cap salarial va continuer d'augmenter pendant encore de... Je vois pas autre chose qu'une autre pandémie pour arrêter le cap salarial. Tu sais, il faudrait que ça prendrait, puis on touche du bois. Mm-hmm. Mais c'est des affaires qui sont... plus grande que nature pour que ce qu'on a vécu se reproduise. Donc, je suis très à l'aise de lui donner un contrat de 8 ans comme on l'a vu. On voit, c'est un gars qui a le goût de s'améliorer et qui est déjà très bon. Et quant à ce goût-là, ben, il s'envole pas dans la nature après que t'aies signé ton contrat. T'sais, tu veux prouver que t'as encore ta place. Et quand t'es jeune de cette manière-là, oui, c'est des fois, ça peut être beaucoup d'argent, mais avec l'attitude qu'on lui a découvert, l'attitude qu'il apporte à chaque match...
C'est un leader. Moi, hein? Ça va être un leader, Antoine.
Il n'y a aucun doute que ça... On disait souvent au début, c'est le trio à Suzuki. Mais peut-être qu'un jour, ça va être son trio à lui aussi. Donc, puis c'est lui qui va inverser les rôles. Donc, Puis quand on le voit jouer, il mène aussi le jeu, il dicte le ton, et c'est ça qui le rend un petit peu exceptionnel.
Je vais tenter, puis j'essaie pas de faire une comparaison entre les deux joueurs, mais à ces grosses années, tu m'avais déjà dit en entrevue, avant même qu'on se connaisse comme on se connaît aujourd'hui, Antoine, le respect que tu avais pour Jamie Benn, tu croyais que c'était le meilleur joueur de la Ligue. Tu sais, c'était un gros ailier, tu sais, capable d'être bon offensivement, etc. Tu sais, je sais pas... C'est quoi le plafond de Slafkovský, mais je sais pas pourquoi j'amène Ben dans la conversation, mais je prenais une chance que ça t'allume quelque chose.
Ben écoute, c'est pas une vilaine comparaison. T'sais, Jamie Benn, c'est tout qu'un joueur de hockey. Il a déjà été dominant dans son rôle à lui, dans son style de jeu à lui. D'ailleurs, il a fait équipe Canada, puis il a gagné les Olympiques à Sochi quand c'était avec l'équipe canadienne. Puis il y en avait des joueurs de talent, c'est pas ça qui manquait, mais on avait besoin d'un type de joueur comme lui, qui n'a pas peur d'aller dans les coins, qui est capable de à peu près tout faire et d'emporter son jeu physique. Parce que la tendance des jeunes joueurs, c'est d'avoir beaucoup de mains, mais ils sont pas tous ultra physiques, ces joueurs-là. Ils sont pas tous vraiment costauds. Tu sais, des gars comme Tage Thompson, puis là, c'est la deuxième fois que je le cite, mais il y en a pas 50 dans la ligue quand même, des gars qui sont qui ont une envergure vraiment imposante. Ils rentrent dans le coin, ils sortent de du coin avec la rondelle, en contrôle, puis ils ont la tête dans les airs, ils lèvent les yeux, puis ils sont capables de faire des jeux. Il y en a, mais de faire avec constance et régularité, soir après soir, il n'y en a pas énormément, puis Slafkovský rentre dans ce moule-là. Pour moi,
oui.
C'est un joueur qui mérite, pour finir la boucle, qui va mériter son contrat, et je le redis, il est à signer le plus rapidement possible, parce que l'année prochaine, s'il te met une saison de 100 points dans le nez, tu fais quoi? C'est pas possible.
Pas possible. Alors, je suis d'accord, Antoine. Moi non plus, je niaiserais pas avec le puck pantoute. Puis qu'il marque un but comme il a marqué hier, là, tu sais, il est en train de démontrer qu'il va en marquer de bien des façons. Parkin avant du filet, fait dévier un tir. Il peut marquer sur réception maintenant. Alors, danger zone avec Slafkovský. En effet, perdez pas de temps avec ça. Je te garde une petite question pour terminer. Si t'avais à parier sur un club dans qui va sortir de l'Ouest, je peux pas voir. J'en parlais avec André, ton ancien coach, avec Max tantôt. Qui va sortir de l'Ouest, Antoine? C'est fort.
C'est tellement une question. Écoute, si je le savais avec certitude, je peux être certain que j'aurais misé un beau 2$ ou un 25 sous là-dessus. Mais c'est tellement difficile. Sincèrement, ça va être difficile de parier contre Edmonton. Avec ce qu'on a vu des Golden Knights dernièrement, je le sais qu'ils ont cette expérience, mais on dirait que... Je ne sais pas si les changements y ont été bien reçus, si la dégringolade qu'on a vue avant les échanges, ça n'a pas eu un impact. Mais j'ai hâte de voir, mais sincèrement, ça va être très difficile de parier contre Edmonton puis Colorado.
Antoine, bonne fin de semaine. Vas-y pour un autre petit réduit à saveur du sucre d'or, mon cher. Repose-toi bien. À la semaine prochaine. Bye.
Salut Mario. Bye-bye.
Bye.
Les amateurs de sport.
C'est 23.